mit Dirk Fuhrig. Herzlich willkommen. Bernard-Henri Lévy ist einer der bekanntesten und wortmächtigsten europäischen Intellektuellen. In seinem Heimatland Frankreich ist der Philosoph in der öffentlichen Debatte nahezu omnipräsent. Er ist ein telegener Star und eine Art Markenzeichen für das geistige Leben Frankreichs. Als Mitbegründer der Nouvelle Philosophie, die sich gegen marxistische Denker wie Jean-Paul Sartre abgrenzten, hat er sich einen Namen gemacht. Lévy ist vor wenigen Monaten 70 Jahre alt geworden. Bis heute dürfte er zu den weltweit bekanntesten Franzosen zählen, nicht zuletzt auch in den USA. Er war stets einer der energischsten Verfechter der europäischen Einigung. Immer wieder hat er sich, was ihm oft vorgeworfen wird, auch für humanitäre, militärische Interventionen ausgesprochen. Er forderte ein Eingreifen Europas in Libyen, ebenso wie zuvor im Bosnienkrieg. In Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, ist auch das Theaterstück verortet, mit dem Lévy derzeit durch 22 europäische Städte reist. Morgen macht er damit Station in Berlin. Der Monolog ist eine politische, philosophische und literarische Beschwörung der gemeinsamen Werte des Kontinents. Kurz vor dem Berliner Gastspiel habe ich mit Bernard-Henri Lévy gesprochen. Looking for Europe, Herr Lévy, heißt Ihr Theaterstück, mit dem Sie in diesen Wochen und Monaten vor der Wahl zum Europäischen Parlament eine Art Werbung für Europa machen. Warum musste es ein Theaterstück sein?
Parler de l'Europe, non, pour réveiller ceux qui veulent bien être réveillés. Pour montrer à la majorité des Européens, qui est une majorité silencieuse, qu'il est temps de élever la voix. Et qu'il est temps de dire non aux destructeurs de l'Europe, c'est-à-dire aux populistes à l'intérieur et aux poutiniens et aux trumpiens à l'extérieur. Parce que l'Europe, elle a deux ennemis, les populistes de droite et de gauche à l'intérieur et Trump et Poutine à l'extérieur. Cette pièce, c'est une pièce pour dire non à ces forces de désagrégation.
Aber warum nochmal die Frage, ein Theaterstück? Warum keine Rede, keine Debatte, kein Podiumsgespräch, kein Aufruf in Zeitungen oder ähnliches? Was macht die ja traditionelle Kunst vom Theater so geeignet oder so modern, um dieses Nein, wie Sie sagen, zu formulieren?
Parce qu'une pièce de théâtre, ça permet d'abord, vous savez, cette pièce, elle va de ville en ville. Je suis un pèlerin de l'Europe, là. J'étais à Amsterdam, j'étais à Vienne, j'étais à Madrid, j'étais à Bruxelles, j'étais à Prague. Bon, et chaque fois, d'ailleurs, j'ai rencontré une chose qui m'a fait immensément plaisir, qui est un vrai enthousiasme d'Européens. Donc, une pièce, ça permet, c'est un objet que l'on transporte. Et puis, c'est aussi un objet qui se transforme. Parce que cette pièce, elle est à l'image de l'Europe, à la fois unie autour d'un tronc commun de valeurs et diverse, parce que les références culturelles sont différentes. Alors, c'est vrai que en Espagne, je parle peut-être un peu plus de Cervantes. Au Danemark, je parle peu davantage de Kierkegaard. Et puis, en Allemagne, je parle davantage de Husserl ou de Kant. Puis le théâtre, ça a un autre avantage, c'est que ça permet de s'adresser à tous et à chacun. On s'adresse à une masse, à un collectif, à une foule, mais à une foule étrangement individuée. C'est un drôle de collectif, un collectif de théâtre. C'est un collectif où chacun garde dans le silence et dans l'obscurité son individualité.
Aber richtet sich eine Theateraufführung nicht doch vor allem an eine Elite, an das gebildete Bürgertum? Und das ist doch genau der ewige Vorwurf an Europa, dass es sich dabei um ein Elitenprojekt handele.
Non, pourquoi l'élite? Salle Humboldt, où je vais jouer et interpréter cette pièce, il y a des places pour des étudiants, il y a des places pour des gens qui ont peu d'argent. Et puis il y a, contrairement à la plupart des théâtres, il y a autorisation de laisser les portables ouverts et d'enregistrer, de piquer des images, d'en faire ce qu'on veut, de se les approprier, de les diffuser, de les mettre sur les réseaux sociaux. Ce texte théâtral, c'est un texte de combat pour les amoureux de la démocratie, pour les amoureux de l'Europe et de la liberté. Et il appartient à tout le monde. Celui qui veut, celle qui veut, s'en emparera.
Knapp 2 Stunden Lesung, Vortrag, ein einzelner Schauspieler. Ist das eine bewusste Gegenstrategie gegen die schnellen Videos im Internet, gegen Facebook etc.? Langsamkeit gegen die populistische Oberflächlichkeit, gegen die Stimmungsmache in den sozialen Medien?
Le peuple n'est pas crétin. Le peuple n'est pas drogué à Internet. Le peuple n'est pas voué à tourner le dos à ce qu'il y a de beau et de grand dans la culture humaine. Moi, je me rappelle le Front populaire, enfin, je connais l'histoire du Front populaire en France en 1936, où le mot d'ordre, c'était d'ouvrir les musées au peuple, c'était d'ouvrir les chefs-d'œuvre au peuple. La gauche européenne, quand elle est noble, elle dit pas on oublie la culture, elle dit on met la culture à la portée de tout le monde. C'est ça le théâtre, il y a une grande vocation du théâtre. Là, j'arrive de Grèce, où j'ai joué cette pièce à Athènes, au Théâtre Palace, devant une foule tellement nombreuse et tellement émue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois que les gens qui étaient là avaient la conscience d'être le peuple qui a inventé le théâtre, c'est-à-dire qui a inventé ce moment où des femmes et des hommes se grandissent en participant d'une aventure théâtrale. Donc arrêtez avec Internet. Le théâtre existe encore. Et arrêtez avec les populistes. Les populistes sont les ennemis des peuples. Les populistes sont contre les peuples, de même que les souverainistes sont contre leur patrie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça le message de ma pièce « Looking for Europe ».
Wie waren denn Ihre Erfahrungen mit dem Publikum bei den bisherigen Aufführungen? Was haben die Leute gesagt? Welche Äußerungen oder Fragen haben Sie denn aufgegriffen?
Je l'intègre absolument. Il y a dans la des moments d'interruption de la pièce, une interruption mise en scène, mais où j'intègre le discours de femmes et d'hommes qui disent un peu ce que vous disiez tout à l'heure, qui disent « Mais moi, l'Europe, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Mais moi, l'Europe, à quoi ça me sert ? Mais moi, l'Europe, à quoi ça m'apporte ? Mais est-ce que l'Europe, c'est pas juste un truc de nantis, d'élite et de riches ?» J'intègre ce discours-là, j'intègre ces voix-là à mon texte et je réponds à ces questions-là. C'est le propre de cette pièce, c'est qu'elle est interactive, elle intègre cette parole sceptique à l'égard de l'Europe et elle répond à ce scepticisme.
Looking for Europe ist also ein interaktives Stück mit Publikumsbeteiligung. Ich musste da sofort an Emmanuel Macrons Débat public denken, seine Debattenoffensive der vergangenen Monate, der Diskurs mit dem Bürger im ganzen Land.
Eh ben, c'est pas ce que le président a fait de plus mal, c'était même bien, c'était la bonne réponse politique au mouvement des Gilets jaunes, une espèce de grand moment démocratique ou de grand moment de maïeutique comme chez Socrate, de maïeutique politique. C'était bien.
Vermissen Sie denn grundsätzlich ein stärkeres Engagement der Künstler und Intellektuellen für Europa?
C'est pas tellement chez les intellectuels, je pense que ça manque chez les citoyens en général. Vous savez, chacun de ceux qui nous écoutent a un petit pouvoir ou un grand pouvoir. Certains un grand, d'autres un petit. Chacun doit utiliser ce pouvoir. Chacun doit faire ce qu'il peut pour ce que cette espérance dont on a hérité, qui est l'espérance européenne, ne tombe pas dans le ruisseau. Il n'y a pas de raison. On a bâti ça. Nos pères et nos grands-pères ont bâti ça. Il n'y a pas de raison, l'Europe, de le laisser à la canaille qui veut le détruire. Et la canaille, ça veut dire les gens comme Le Pen en France. Mais enfin, vous les avez en Allemagne, c'est l'AFD. C'est les gens comme Mélenchon, et vous en avez aussi en Allemagne, des extrêmes gauches et des casseurs d'extrême gauche. Ou c'est les islamistes radicaux. Voilà. Il n'y a pas de raison de laisser le terrain.
Wir sitzen hier für dieses Interview fast direkt am Brandenburger Tor, dem Symbol der Teilung Deutschlands, aber auch der deutsch-französischen Erbfeindschaft und des Zweiten Weltkriegs. Als Antwort auf den Krieg ist ja die Idee der Europäischen Union entstanden. Ist das zu lange her oder warum wenden sich so viele Leute von der europäischen Idee ab?
S'il y a un endroit où on devrait s'en souvenir, c'est ici, en Allemagne. L'Europe, c'est trois choses. C'est de la prospérité, de la démocratie et de la paix. S'il y a bien un endroit où il y a eu de la guerre, c'est l'Allemagne. S'il y a bien un endroit où il y a eu de l'esclavage et de la tyrannie, c'est en Allemagne. Et récemment, l'Allemagne de l'Est. Moi, je me rappelle la chute du mur de Berlin. Et s'il y a bien eu un moment où il y a eu de la misère, c'est aussi en Allemagne. Moi, je me souviens, un voyage en Allemagne de l'Est en 1988 ou début 89, c'était la misère noire. Donc l'Europe, c'est une pourvoyeuse de prospérité. C'est une pourvoyeuse de paix et c'est une pourvoyeuse de liberté. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, si on veut revenir au temps de la Stasi et des écoutes téléphoniques permanentes comme dans le film, bah, très bien. Mais alors qu'on le dise. Et vraiment, s'il y a un peuple qui est bien placé pour savoir à quel point l'Europe a été une bénédiction, c'est le peuple allemand.
Was können denn die Deutschen tun, Herr Lévy, um Europa zu retten? Was muss getan werden? Was schlagen Sie konkret vor?
Eh bien, ce que je propose concrètement, c'est de débloquer vos rigidités à vous autres Allemands. Il y a aujourd'hui un pas en avant politique qu'il faut faire. Et les Allemands, les élites allemandes, la classe politique allemande n'y est pas décidée. Et c'est dommage. Parce que ce pas en avant, qui respectera totalement nos singularités nationales, nos singularités culturelles, il est nécessaire. Si on veut vraiment se protéger au moment où Trump nous abandonne, si on veut vraiment se renforcer au moment où les impérialistes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les Chinois, nous envahissent, si on veut vraiment résister face à celui qui veut nous affaiblir, qui est Poutine, il n'y a qu'une seule solution, c'est être unis et être unis en allant de l'avant et en nous donnant une tête politique commune, pas seulement un marché. L'Europe, elle a failli crever et elle est en train de crever de n'être que économique, d'être que un grand marché, que une monnaie. C'est bien, mais c'est pas assez. Le moment est venu aujourd'hui de faire un pas de plus en direction de la politique. Je crois que certains Français y sont prêts, certains Allemands sans doute aussi, mais pas suffisamment.
Sind Sie denn gerade in dieser Frage enttäuscht von Deutschland, von der deutschen Regierung?
Je suis, ça dépend sur quoi. J'ai trouvé, par exemple, j'ai immensément admiré Madame Merkel au moment où elle a décidé de ne pas fermer sa porte aux migrants. C'était un grand moment de grandeur et de moralité kantienne. Hein, Emmanuel Kant, c'était magnifique. En revanche, quand je vois les réactions à la lettre européenne à la lettre aux Européens d'Emmanuel Macron, quand je vois la réaction de la successeuse de Madame Merkel, c'est vrai que je suis déçu. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'elle maîtrise totalement toutes les questions dont elle parlait, par parenthèse. Mais je suis déçu, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a là comme une espèce de résistance à quelque chose qui est pourtant la seule manière. Aujourd'hui, on est entouré par cinq forces montantes. L'islamisme radical, l'impérialisme perse qui se réveille, l'impérialisme ottoman, l'impérialisme chinois et l'impérialisme russe. Et puis on avait un parapluie qui était l'Amérique qui est en train de se refermer. Qu'est-ce qu'on fait ? On se laisse envahir par les cinq empires en étant privé du parapluie américain ou on essaye de s'unir pour résister. C'est ça la question nouvelle. On a dépassé l'époque de Adenauer, Gasperi, Robert Schuman. On est dans une configuration géopolitique nouvelle, avec une Amérique dirigée par un fou qui s'appelle Monsieur Trump. Un fou et un crétin qui est en train de nous laisser tomber, qui est en train de dire que les Européens sont ses ennemis, qui s'entendra toujours mieux avec un Erdogan dopé à la testostérone qu'avec un Français ou un Allemand. Et il nous livre justement au club des dopés à la testostérone. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Le Luxembourg avec ses petites mains, l'Allemagne avec ses Volkswagen et la France avec ses idées va résister ? Non. La seule manière de résister, c'est de résister ensemble. Mais ensemble, ça veut dire en ayant un budget commun, ça veut dire en ayant une politique étrangère commune, en ayant une défense commune.
Wenn Sie sagen, dass Deutschland zu sehr blockiert oder zu zögernd ist, halten Sie die Deutschen also für zu egoistisch, vielleicht gar zu nationalistisch? Wir Deutschen sehen ein starkes Nationalgefühl ja meist nur, wenn wir zu Ihnen nach Frankreich blicken.
On est tous trop nationalistes. Vous avez l'AFD qui est en train de contaminer des fragments entiers de la CSU et nous, on a le Front National. C'est la même chose. Et c'est le même danger. Parce que ce que les gens de la droite allemande doivent savoir, c'est un truc que la droite française sait depuis longtemps, c'est que le grand ennemi de la droite allemande, c'est pas la gauche, c'est pas le SPD, c'est l'extrême droite. L'ennemi à mort de la CSU, de la CDU, l'ennemi à mort, ceux qui veulent la mort de la droite allemande libérale et démocratique, c'est l'AFD. Ils veulent les tuer, les gens de la droite allemande. De la même manière qu'en France, mais ça Jacques Chirac l'avait compris il y a très longtemps, Marine Le Pen, elle veut tuer la droite. Son ennemi, c'est pas Mélenchon. Le Pen et Mélenchon, ça va très bien. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ça s'entend comme larron en foire. C'est pas un problème. En revanche, la droite de Nicolas Sarkozy, la droite de aujourd'hui Laurent Wauquiez, ça, c'est son ennemi radical. Il faut comprendre ça. Et il faut comprendre inversement que quand le fascisme monte, et ça, vous connaissez cette histoire par cœur aussi en Allemagne, quand le fascisme monte, celui dont la résistance est la plus utile, c'est bien sûr la gauche, mais c'est surtout la droite. C'est la droite qui doit résister à l'extrême droite. C'est elle qui doit faire rempart. C'est elle qui doit faire barrage. C'est elle qui peut sauver la civilisation. En tout cas, moi, c'est ça que je dis. À la salle Humboldt, là, au théâtre, dans cette pièce, Looking for Europe, c'est entre autres un appel à la droite allemande d'avoir le courage de ses opinions, d'avoir le courage de ses valeurs et de faire front face à l'extrême droite.
Was glauben Sie, Herr Lévy, wird Marine Le Pen jetzt triomphieren in Frankreich bei den Europawahlen?
Écoutez, il y a un vrai risque. Elle surfe sur la vague des gilets jaunes. Elle incarne assez bien une tradition du fascisme français qui prend son miel à gauche comme à droite, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Elle est une bonne oratrice. Elle peut gagner. Et récemment, un responsable politique français a dit qu'il commençait à pouvoir imaginer le jour où l'extrême droite gouvernerait la France. Il a raison, c'est possible. Ce serait un cataclysme absolu, pour vous aussi les Allemands d'ailleurs. Ce serait un tremblement de terre, mais là c'est possible. Il faut nous aider à combattre Marine Le Pen, comme on doit vous aider nous à combattre l'AFD, et comme on doit s'aider l'un l'autre à combattre le venin du découragement et le venin de la lassitude. Voilà, il faut retrouver courage.
In Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron vor zwei Jahren seinen Wahlkampf zur Präsidentschaft mit Europa gewonnen. Kann ihm das nun erneut gelingen? In einem Klima, das von sozialen Spannungen geprägt ist, auch von antieuropäischen Stimmungen bei Ihnen in Frankreich?
La grandeur de la politique, parce que la politique a de la grandeur, c'est de ne pas s'intéresser seulement au succès. Bien sûr, il faut gagner. Mais il faut aussi gagner en restant fidèle à soi-même, en sauvant son âme et en défendant ses valeurs. Emmanuel Macron n'a pas gagné la présidentielle avec l'Europe. Il l'a gagné malgré l'Europe. Parce que ça ne l'a pas aidé d'être un pro-européen. Ce n'est pas pour ça qu'il a gagné. Mais il a gagné parce qu'il était jeune, il a gagné parce qu'il était ardent, il a gagné parce que ses partisans, ses adversaires, ses challengers se sont effondrés l'un après l'autre. Mais il a eu la grandeur de ne pas mettre son drapeau européen dans sa poche sous son mouchoir. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Il faut aller à cette bataille, la bataille européenne, en brandissant le drapeau européen. J'ajoute, parce que là, je suis à la moitié de mon tour d'Europe, puisque je fais en ce moment Berlin, le théâtre Humboldt, c'est une étape, la plus importante pour moi d'ailleurs, avec l'étape de Budapest. Ce sont les deux, pour moi, les plus cruciales, pour des raisons opposées. Mais ça n'est qu'une étape d'un tour d'Europe. Ce que je rencontre, ce n'est pas tellement de l'euroscepticisme, je rencontre de l'enthousiasme. Partout où je vais, ça a été de l'enthousiasme, ça a été des salles pleines, ça a été un accueil fervent. Pas pour moi, je vais jouer cette pièce dans des pays qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas qui je suis, mais pour l'idée européenne, celle qui est acclamée sur scène. C'est la petite princesse Europe de la mythologie grecque qui a été kidnappée, ou qui s'est égaré, ou dont on a perdu la trace, et qu'on est tous en train de chercher. Eh bien, il y a des Européens partout qui se disent on l'a retrouvé.
Die Gilets jaunes, die Proteste der Gelbwesten, bringen die nicht das gesamte politische System in Frankreich ins Wanken? Wie kann Frankreich die Europäische Union stützen, wenn die sozialen Bewegungen so antieuropäisch agieren? Torpedieren die Gilets jaunes nicht den europäischen Aufbruch in Frankreich?
Les gilets jaunes, attendez, aujourd'hui c'est quelques milliers de personnes. Et au plus fort de la crise des gilets jaunes, c'était 200 ou 300 000, peut-être 400 000, je ne sais plus. Nous sommes quand même 60 millions de Français. Donc arrêtez de voir cet événement des gilets jaunes comme si c'était une révolution française. Ce n'est pas la révolution. C'est une espèce c'est un mouvement de colère, ça c'est certain. C'est des revendications sociales, c'est certain. Mais c'est aussi le retour dans la rhétorique, dans le langage utilisé, d'un vieux fond fasciste français qui était endormi et qui s'est réveillé à cette occasion-là. Mais c'est pas les gilets jaunes qui sont en train de faire le paysage politique français. Et au demeurant d'ailleurs, aujourd'hui, ce mouvement-là est rentré dans son lit. Le peuple français vaut mieux que ce déferlement de haine, de volonté de mort, de détestation de la République dont les Gilets jaunes ont donné le spectacle.
Aber immerhin scheinen doch sehr viele Franzosen die Forderungen der Gilets jaunes zu unterstützen, zumindest wenn man den Umfragen glauben darf. Bernard-Henri Lévy, ist die Bewegung denn nicht eine anhaltende Herausforderung für die Regierung in Frankreich?
Je ne crois pas que ce soit un grand défi, je crois que c'est un grand spectacle. Je crois que c'est une grande série Netflix et qu'il y a beaucoup de Français qui se mettent devant leur poste de télévision le samedi comme ils se mettraient devant une série. Or c'est une série qui dure un peu plus que les séries Netflix habituelles. En général, une série Netflix, ça s'arrête au 13, 14, 15e épisode. On est au 20e. Mais enfin, c'est en train de finir. Après, si vous me demandez si la presse et les chaînes d'information s'y sont trop intéressées, moi, il me semble qu'il y a eu une... C'est pas trop intéressé, parce que l'événement existe, mais il y a eu une espèce de génuflexion, une espèce de révérence à l'idée de cette parole des Gilets jaunes, qui était quand même très étrange. Des Gilets jaunes disaient des trucs qui auraient été inaudibles dans la bouche d'une Marine Le Pen et qui auraient été passibles de la loi. Il y a en France une liberté d'expression, sauf face à la parole raciste, par exemple. Il y a eu une tolérance à l'endroit des Gilets jaunes tout à fait étrange de la part de la presse française et des chaînes d'information françaises.
Nun gab es aber auch antisemitische Vorfälle bei den Demonstrationen der Gilets jaunes. Nicht nur dort, auch in anderen Teilen der französischen Gesellschaft zeigt sich neuer Antisemitismus. Sie wurden, Herr Lévy, 1948 als Sohn jüdischer Eltern in Algerien geboren. Damals war das noch ein Teil Frankreichs. Haben Sie Angst vor einem neuen Anstieg des Antisemitismus in Frankreich, in Europa? Zahlreiche Juden haben Frankreich ja schon verlassen oder sind dabei, es zu tun.
Le retour de l'antisémitisme en France me fait peur. C'est la première fois depuis 15 ans qu'on meurt en France parce qu'on est juif. Depuis qu'on peut entrer chez des vieilles dames juives et les défenestrer ou les poignarder à mort en criant « Allah Akbar ». Donc on meurt en France parce qu'on est juif, ça me fait peur. Après, si vous me demandez s'il est temps de partir et de quitter la France, je vous dis non, parce qu'il n'est pas de question de laisser cette belle France que les juifs ont contribué à construire, comme ils ont contribué à construire l'Allemagne démocratique. Il n'est pas question de la laisser à cette bande d'illettrés, de crétins et de gens qui la détestent. Et troisièmement, est-ce que ces crétins et ces illettrés ont gagné? Je ne crois pas. Parce qu'il y a une grande différence entre aujourd'hui et les années 30, c'est qu'aujourd'hui, les institutions républicaines, la classe politique, tiennent bon de ces institutions qui étaient labourées en profondeur par l'antisémitisme. Il n'y a pas ça.
Vielleicht nicht in Deutschland und Frankreich, aber was ist mit anderen Ländern der EU, Ungarn zum Beispiel?
Évidemment que l'antisémitisme vient en Hongrie, la campagne contre Soros en Hongrie, les caricatures de Soros affichées sur les murs de Budapest, c'était une campagne antisémite typique, mais c'est un fait, oui, qu'il y a là une poussée extrêmement forte. Qu'est-ce que je vous dis ? L'Europe est redevenue en effet cette terre-là où l'antisémitisme, ce mauvais géant endormi, est en train de se réveiller. Il se réveille partout. Ben, il faut le renvoyer à son sommeil imbécile. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'y envoyer. Moi, je compte beaucoup sur l'Allemagne, qui connaît l'affaire, qui connaît le monstre. Je me rappelle, au moment de la polémique entre Ignace Boubis et Martin Walser, je me rappelle comment les bons réflexes de l'Allemagne ont fini par triompher. Voilà, ben c'est sur ça que je compte, sur cette Allemagne-là et sur la France de Macron aussi.
Sie zählen, Bernard-Henri Lévy, auch auf die Literatur, die Philosophie, die kulturelle Tradition Europas, um am Schluss unseres Gesprächs noch einmal auf Ihr Theaterstück zurückzukommen.
Bien sûr. Moi, je plaide dans Looking for Europe pour une Europe plus sociale, c'est-à-dire qu'il fasse plus pour les déshérités. Pour une Europe plus politique, deuxièmement, c'est-à-dire qu'il se donne une vraie tête. Mais troisièmement, pour une Europe plus poétique. Politique et poétique. Et c'est le cinquième acte de la pièce, un appel aux vrais pères fondateurs de l'Europe qui ne sont pas Adenauer et Jean Monnet, mais qui sont Goethe, qui sont Erasme, qui sont Dante, qui sont Périclès dans la Grèce ancienne. J'en appelle à cette grande poésie qui a fait l'imaginaire de l'Europe, pour vous le dire encore d'une autre manière. Le père fondateur de l'Europe, pour moi, c'est Cervantes. Pourquoi ? Parce que Cervantes, c'est Don Quichotte et c'est Sancho Panza. Sancho Panza, c'est Jean-Claude Juncker. C'est les règlements, c'est le pragmatisme, c'est la politique à la petite semaine. Et puis, il y a Don Quichotte, c'est-à-dire celui qui rêve de sa Cunégonde, celui qui bâtit des châteaux en Espagne, celui qui n'en finit pas de rêver sur sa chimère. Il faut les deux. Il faut la poétique quichotienne et il faut le pragmatisme de Sancho Panza. C'est de ces deux choses-là que l'Europe d'aujourd'hui a vraiment besoin.
Sagt Bernard-Henri Lévy. Der französische Philosoph und engagierte Intellektuelle zeigt seinen Theatermonolog Looking for Europe morgen Abend in der Berliner Urania und anschließend in weiteren europäischen Städten. Hier folgt nun die Sendung Kultur heute. Noch einen schönen Sonntag wünscht Dirk Fuhrig.